Mesdames, Messieurs, en ma qualité de Bas-Breton né à Nantes, j'ai choisi d'inaugurer ce colloque par une allégorie qui est liée à la navigation maritime. Embarquons l'équipage sur le bateau Justice. Disons que le but de la croisière est d'apporter aux passagers un service de qualité dans des délais raisonnables et au meilleur coût. L'équipage est composé de juges qui déterminent le cap et la destination en délivrant aux experts chargés de la navigation des missions sur la destination du navire, tout en leur laissant le soin d'apprécier la logistique et la tendance. Des provisions leur sont allouées pour faire face aux premiers frais et normalement pour assurer le but final de l'opération. Une autre partie de l'équipage est constituée par des avocats qui assistent les passagers et qui ont parfois des préoccupations diverses. Certains essayent parfois de détourner le navire pour explorer quelque île lointaine afin de profiter plus longtemps de la croisière. Le capitaine a hâte d'arriver au port pour retrouver sa famille, mais il lui arrive parfois d'être distrait ou d'être mal organisé, de ne pas répondre aux experts qui signalent l'approche d'un récif. Quant aux experts eux-mêmes, eh bien, ils ont la lourde responsabilité de faire marcher le bateau. Ils sont dans la soute sur le pont et ils estiment qu'ils ont droit à une juste rémunération pour leur travail. Il est vrai que sur les bateaux-prisons qui emmènent les détenus en Guyane, le personnel est souvent très mal payé. Mais même pour les croisiéristes civils, il paraît que certains capitaines sont parfois assez ladres sur le calcul de la rémunération de l'équipage. Quant à quai, on formule en général des critiques sur vue d'assez loin, sur la lenteur et parfois sur le coût élevé des marins et de la croisière. Voilà cette brève présentation pour présenter peut-être de façon un peu humoristique le décor de notre réflexion commune sur le coût de l'expertise et remarquer d'emblée que tout jugement porté sur ce point est souvent subjectif, rapide et superficiel. Cette allégorie permet aussi de voir que nous sommes tous embarqués sur le même bateau et que tous les participants sont concernés, à un titre ou à un autre, dans la formation du coût final et que nos échanges aujourd'hui auront certainement le mérite de rappeler aux uns et aux autres leurs propres responsabilités. Réfléchir au coût de l'expertise, c'est s'interroger sur les différents facteurs qui influent sur sa détermination. Le premier facteur consiste à souligner le rapport étroit qui existe entre l'économie de l'expertise et son coût. L'expertise judiciaire a pour but fondamental d'apporter à la justice et aux parties les éclaircissements techniques nécessaires dans des domaines spécialisés permettant de manifester la vérité et d'aider les magistrats dans leur prise de décision. Dans la grande majorité des cas, les conclusions de l'expert judiciaire obtiennent l'adhésion des parties qui abandonne la procédure contentieuse. Dans le cas contraire, le juge peut avoir asseoir sa décision sur la base d'éléments techniques accessibles. Ainsi, l'un des premiers facteurs qui influe sur le coût de l'expertise renvoie en fait aux qualités mêmes de l'expertise. Je rappelle évidemment les principaux thèmes, c'est la clarté, la précision, la concision des réponses, le respect du contradictoire, le respect des grandes règles de procédure, la diligence des opérations, le respect des délais, la déclaration de toutes les diligences accomplies et la présentation d'une note d'honoraires et de frais détaillés afin que le magistrat puisse apprécier l'importance du travail réalisé. Enfin et surtout peut-être une relation étroite entre le magistrat et l'expert de façon à ce que le coût prévisible de l'expertise soit connu à la fois du juge mais aussi et surtout des parties, que les provisions nécessaires initiales et complémentaires soient demandées et délivrées en temps utile et que les prorogations de délai soient également demandées ainsi que les difficultés techniques soulevées au moment opportun. Si ces diligences et ce déroulé de la procédure rêvée est appliqué, la plupart du temps et dans la très grande majorité des cas, il faut bien le reconnaître, le coût de l'expertise est avalisé par le juge et nous ne rencontrons pas de grandes difficultés. La principale difficulté pour le magistrat taxateur est en fait, lorsque le problème est posé, de se faire une opinion sur la vraisemblance des frais et des honoraires présentés par l'expert judiciaire, puisque une telle évaluation, finalement, vous le voyez, est empreinte de subjectivisme et n'est pas forcément facile. Sur quels éléments peut se fonder le juge pour forger son opinion? Le premier, c'est évidemment l'importance du travail accompli, ensuite son adéquation avec la mission confiée, enfin un regard, bien sûr, sur le coût de la vacation horaire demandée, et puis une analyse des frais et des bourgs. L'appréciation du coût de la vacation horaire est a priori assez simple, ainsi que pour les frais et des bourgs, surtout si l'expert judiciaire les a présentés et justifiés sur une annexe à part de son rapport. Le plus délicat est évidemment d'apprécier l'importance des opérations d'expertise conduites, autrement dit, quel est le montant des vacations demandées par l'expert et ce montant est-il justifié par rapport au rapport. Cette appréciation se fait en partie par comparaison avec le coût habituel des expertises effectuées par les experts dans une même rubrique professionnelle, ce qui reste encore assez aléatoire compte tenu des différences sensibles qui sont constatées entre les coûts. Aussi, le magistrat doit-il, dans un second temps et impérativement, trouver à la lecture du rapport d'expertise, dans la description des diligences accomplies par l'expert, enfin dans le détail de la note des frais et honoraires, les éléments objectifs pour fonder son appréciation des opérations d'expertise. La perception du travail accompli ressortira ainsi, d'une part, de la lecture du rapport dans le détail des diligences accomplies, ce qui peut être résumé en plus dans une annexe du rapport, dans la note de frais et honoraires où le travail accompli doit être explicite autant que possible et où les frais et débours doivent être suffisamment détaillés, du temps consacré à l'expertise, enfin de la concordance entre l'importance du rapport et celle des opérations d'expertise. En gros, on peut dire qu'un rapport de 30 heures qui se résumerait à 3 pages paraîtrait sans doute assez laconique et qu'à l'inverse, un rapport extrêmement exhaustif et très long n'est pas forcément la gageure d'un bon rapport d'expertise. Enfin, ce dernier élément qui permet d'apprécier les opérations, c'est évidemment la conformité entre le coût global de l'expertise et le montant du litige. Plus le montant du litige est faible, plus le coût global de l'expertise est en proportion élevé. Le coût de l'expertise ne doit pas dépasser en moyenne, c'est un pourcentage d'expérience, donc qui ne vaut que ce que valent mon expérience, que vaut mon expérience, en gros de 20% du préjudice dans le cadre d'une appréciation financière. C'est un pivot moyen, bien sûr, et au-delà, il convient d'expliciter et de garantir l'évolution des provisions en fonction du dépassement de ce chiffre moyen. Enfin, il faut examiner la concordance entre la note de frais et d'honoraires et les provisions versées. Là aussi, bien sûr, l'importance est tout à fait réelle sur l'utilité de prévenir les parties du coût prévisible lorsqu'ils demandent des opérations complémentaires de façon à éviter de présenter in fine une note d'honoraire qui est du double de la provision, ce qui est à peu près certainement entraînera une contestation. Le deuxième facteur, j'arrive presque au bout, n'ayez pas peur, l'expert n'est pas le seul responsable, bien sûr, du montant de l'expertise. Il appartient à chacun, tant aux magistrats qu'aux experts, aux parties, à leurs conseils, d'avoir en fait le souci permanent de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour limiter au maximum ses coûts. La préparation par les parties et leurs conseils du dossier technique conduit l'expert à une étude du dossier plus longue ou à conduire des investigations complémentaires inutiles. La non-communication ou la tardiveté de la communication des pièces techniques en début d'expertise, pour des raisons supposées stratégiques, sont également un facteur d'allongement inutile et donc de coûts supérieurs. Les mises en cause tardives de tiers à la procédure initiale sont également un cas courant d'allongement inutile de la procédure. Les procédures dilatoires qui conduisent à défendre des hypothèses improbables égare l'expert ou le condamne à des investigations complémentaires inutiles. Voilà rapidement résumé quelques cas dans lesquels les incidences de la conduite par les parties de l'expertise ont une incidence finalement assez directe sur les coûts. Les demandes de réunion d'expertise complémentaire, enfin, sont autant de situations qui renchérissent le montant de l'expertise. Pour les magistrats, il est essentiel que des réponses rapides soient apportées aux demandes de provisions complémentaires ou de prorogation des délais. J'encourage pour ma part les présidents de tribunaux à échanger directement par voie électronique avec les experts pour tous les aspects administratifs des procédures afin d'éviter que des réponses trop tardives ne bloquent le déroulement d'une procédure dans l'attente du courrier qui accordera ou fixera le montant de la provision complémentaire ou qui prorogera le délai demandé. Donc voici un petit peu les thèmes sur lesquels vous allez pouvoir échanger aujourd'hui. Je pense avoir largement insisté sur l'inter-responsabilité des uns et des autres dans finalement ce qui est le coût de l'expertise, mais qui est, vous le voyez, tout à fait partagé par l'ensemble des participants. Et je pense aussi que ce colloque devrait favoriser des ébauches de réponses sur un certain nombre de questions qui restent posées, sur les difficultés d'élaborer un barème, puisque il y a une multiplicité de types d'exercices professionnels entre l'expert qui travaille avec son époux, son épouse, entre celui qui travaille dans un cabinet très structuré, entre celui qui est fonctionnaire et qui, de temps en temps, fera une expertise ou deux. La typologie elle-même, bien sûr, des expertises qui sera analysée dans les questionnaires qui a été élaboré, qui permet de voir aussi les différences majeures qui existent entre les expertises médicales qui sont en général assez brèves et qui se déroulent en cabinet, et puis les beaucoup plus grandes différences qui existent dans les expertises de construction, les expertises mixtes, où le travail de cabinet s'accompagne de déplacements plus ou moins importants sur le terrain, qui donnent évidemment une certaine relativité à l'élaboration de barèmes applicables à un seul type, à tous les types d'expertise, puisque, on le voit, les variations peuvent être très importantes. Elles peuvent aller de 30 euros pour une consultation à plus de 150 000 euros pour une expertise de construction. Et la notion de barème, dans ces conditions, est assez difficile. Je pense qu'il est plus intéressant aussi que vous donniez votre avis sur le calcul de la vacation horaire, puisque c'est un point important, peut-être par typologie d'expertise, afin de déterminer le coût de revient en 2014 par rapport aux charges fixes d'un cabinet et par rapport au temps passé par rapport à l'activité professionnelle d'ensemble, afin de savoir quel est le coût moyen pour assurer une juste rémunération de l'expert. Donc toutes ces questions ne doivent pas nous empêcher de réfléchir franchement aux questions posées. Je reste en tout cas pour ma part très, très ouvert à toutes les suggestions qui seront faites aujourd'hui sur ces différents points. Et en tout cas, je vous assure que le livre de bord de cette croisière sera communiqué à tous les présidents des juridictions du ressort.